Ézéchiel 33, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne à le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Dans le chapitre 3 de ce même livre, dans le chapitre 3, au verset 17, Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, et il mourra dans son péché. On ne parlera pas de la justice qu'il a pratiquée, je te redemanderai son âme. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pèche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, « Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. » Je me levai et j'allai dans la vallée. Et voici, la gloire de l'Éternel y apparut. Et pour ceux qui pensent un instant que ça c'est de la doctrine de l'Ancien Testament, j'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre des Actes au chapitre 20, pour voir comment le Seigneur, comment l'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse par rapport à cette affaire du sang. Aujourd'hui, la légèreté dans les églises s'est installée à cause de cette superficialité, bien sûr, parce qu'on n'a pas compris combien il était important d'avertir les frères. D'ailleurs, à ce sujet, ce verset me vient à l'esprit, la Bible dit que normalement nous sommes capables de nous avertir les uns les autres. Vous savez que c'est écrit ? Vous êtes capables d'avertir celui qui est à côté de vous. Normalement. Acte 20, verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. J'avais pensé, suite à l'exhortation de dimanche dernier, parce que c'était très intéressant, c'est très spirituel, vous parler sur les prophéties de l'Apocalypse, parce qu'elles sont extrêmement intéressantes, de comprendre la chronologie des prophéties, franchement c'est intéressant. Et toute cette semaine, je me suis tenu devant Dieu, j'avais un séminaire pastoral à Montpellier, mais même en faisant ce séminaire où j'ai vu de grands besoins, j'étais en pensée également, comme on sait tous le faire, de travailler plusieurs choses en même temps, j'ai pensé à ce culte de ce matin. Et hier matin, quand je me suis réveillé, j'ai vraiment été interpellé par rapport à ce qu'on va partager ce matin. Alors bien sûr que je voudrais vous parler des dispensations depuis la Genèse jusqu'au millénium, c'est archi bien. Mais dans mon cœur, je sais. Alors je veux le faire avec vraiment sérieux. Je sais que mon devoir, c'est de vous avertir. Nous sommes peinés de savoir que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. Si vous venez pour la première fois, sachez que tout ce que je dis, c'est biblique. Ce n'est pas une invention sentimentale ou intellectuelle ou philosophique, c'est la parole de Dieu. Jésus a prophétisé que sur la terre entière, lorsqu'il reviendra chercher son épouse, je ne parle pas de l'Église, quand il reviendra chercher son épouse, la moitié des vierges ne seraient pas prêtes. Et moi je voudrais que dans l'assemblée où Dieu nous a placés, ça serait quand même le chouette qu'on soit tous prêts. Est-ce que ça peut arriver? Eh bien sûr. Dans une église, 50-50, ça ne veut pas dire que Dieu va plouffer sur les gens. Ça veut dire que tous les chrétiens réunis sur la terre feront que, il y en a la moitié, tout confondu, qui ne seront pas prêts. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne sont pas sérieux. Les chrétiens ne sont pas sérieux. Ici, je sais que oui, je sais pourquoi vous venez. Mais je ne m'adresse pas qu'à vous. Et au milieu de nous, il doit y en avoir certainement qui sont très légers avec Dieu. Sinon, je ne vois pas pourquoi j'aurais à cœur de vous apporter ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on va voir ce matin. Le Seigneur a dit que sa maison, et c'est le seul nom qu'il donne à sa maison, serait une maison de prière. Sa maison, c'est nous. C'est écrit tout ça, je ne vais pas prendre les textes chaque fois pour vous perdre dans la recherche. Sa maison, c'est nous. Vous êtes, si vous avez accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, ce qui n'est pas sûr pour tous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous gardez cette grâce jusqu'à la fin, nous sommes des temples, tous. L'Église, le corps de Christ, est un temple, pas le bâtiment. Vous avez vu ce qu'on a fait dans nos pays, en Europe, nos temples et notre cathédrale, est-ce qu'elles ont amené une âme à Dieu? Pas la peine de répondre. Nous devons être une maison de prière. Beaucoup de chrétiens ne vont pas bien parce que leur prière est inutile. C'est écrit. Quand vous priez, quand vous élevez la voix, quand vous élevez vos mains, je n'écoute pas. Il s'adresse à des gens qui n'obéissent pas. Parce que je peux vous dire qu'on peut aller à l'église et ne pas obéir. On peut prêcher la parole. Et ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit. Vous le comprenez bien, c'est facile à comprendre avec cet exemple. Nous devons aimer la prière. Nous devons l'aimer parce que c'est un besoin que nous avons. De parler avec notre Seigneur. Est-ce que vous avez besoin de parler à votre Seigneur? Ou est-ce que vous n'en avez plus besoin parce qu'il y a longtemps que le Seigneur ne nous aurait pas exaucés et que nous sommes déjà dans la grande apostasie en disant « Oui, moi je prie plus, ça ne sert à rien. » À la place de prier comme ça, vous feriez mieux de demander à Dieu pourquoi ça fait longtemps que vos prières ne sont pas exaucées. On peut prier partout. Dans le psaume 4, il est dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Et il ajoute aussi « Parlez en vos cœurs sur votre couche. On peut prier sous sa couette. Que Dieu soit béni. On peut prier quand on est tout seul. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. On peut prier au bureau, on peut prier au travail. Est-ce qu'on peut prier au travail ? Hier, je pensais à Néhémie. On peut le lire quand même, c'est bien. Juste, on ne va pas tout voir, mais juste quand même ce texte pour vous montrer qu'on peut prier au travail. Dans Néhémie. Regardez. Alors, Chronique. Ruth, Esdras, Néhémie. Dans Néhémie, il a passé 4 mois à chercher Dieu. Et là, bien sûr, il est au travail, il est chanson, il est en captivité. Il est à Babylone. Il est loin de chez lui. C'est un homme que Dieu va utiliser. Il est au travail. Il est au travail. Regardez bien. Je prends ce texte, mais c'est pour vous encourager à lire et regarder chaque fois où les hommes étaient quand ils priaient. Néhémie, chapitre 2, verset 1er, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. Allez-y, cherchez. Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est vrai, c'est un peu plus difficile, mais regardez s'il est beau ce texte. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. C'était une très grande responsabilité, cette responsabilité d'être chanson. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Voyez comment cet homme était soucieux de s'appliquer à son travail. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Voyez. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage ? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Regardez la réaction du roi. Le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux. Et le roi répondit, etc., etc. Et la main de Dieu était sur cet homme. Il était au travail. Il a prié dans son cœur. Ça a pris une seconde. Ou un peu plus, mais pas deux. Et Dieu l'a béni. Anne, elle a prié dans le temple, pleine d'amertume à cause de sa souffrance, parce que sa souffrance était nécessaire. Nous, on a un blocage avec la souffrance. On ne comprend pas ces choses, parce qu'on n'est pas éclairé. La souffrance, c'est un moyen. Vous avez vu le nombre de femmes stériles que Dieu a utilisées dans la Bible ? Même l'ange, quand il dit à Marie, quand il s'adresse à Marie, tu sais, ta cousine, qu'on appelle la stérile, même au ciel, il le savait. La souffrance génère quelque chose. Ne me dites pas que Anne aurait pu être stérile des années, puis paf, tomber enceinte et Samuel deviendrait l'homme de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'il y a un problème, et un problème dans nos cœurs d'éclairage. Et ça s'aggrave à tel point que vous avez vu dans le monde combien l'anarchie va détruire notre Europe pour susciter un dictateur mondial. Ce que vous voyez, il faut que ça arrive. Quand je vois des chrétiens de 30 ans de conversion qui s'arrachent les cheveux en regardant BFM TV, mais ne le regardez pas. Mettez-vous à genoux. Oh Seigneur, qu'est-ce qui va arriver ? Ah, c'est bizarre quand ça commence à toucher nos bagnoles. Non, riez pas. Ne riez pas. J'ai pas envie de rire. Mes frères et sœurs, il faut que ces choses arrivent. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. Parce que votre délivrance approche. Jésus va revenir. Moi, que Jésus revienne, moi, il peut me prendre de suite, là. Bon, ça serait bête que je meure là, peut-être. Après la réunion, c'est peut-être moins désordonné. Mais mes frères et sœurs, combien de chrétiens ne sont pas prêts ? Ils n'ont pas compris que la prière, c'est dans la souffrance, où ils étaient, Paul et Silas, où ils étaient quand ils se réjouissaient et qu'ils chantaient, ils ne priaient même pas, ils chantaient. chargé de coups dans une prison intérieure, c'est-à-dire une prison à l'intérieur de la prison, une prison dans les caves. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, c'est là où mettaient les gens les plus méchants. Et on les avait considérés comme des gens méchants, blessés, chargés de coups, abîmés, fatigués, affamés. Eux, ils sont dans la prison et ils chantent. Et ça va plaire au Seigneur, je vous le dis. Dieu institue la prière. Je pourrais vous parler, vous voyez, toute cette exhortation de tous les endroits où les hommes ont prié. Pour vous expliquer que la prière, c'est un état d'esprit. Quand Dieu dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'il faut être 24 heures sur 24 à genoux. C'est un état d'esprit. Il faut prier. Parce que les chrétiens qui ne prient pas et qui ne veillent pas ne seront pas prêts. Si vous ne priez pas, écoutez-moi mes frères et sœurs, moi je vous avertis. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Des fois les chrétiens vous disent, à quoi ça sert un pasteur? Eh bien ça sert à ça. Moi je vous avertis que si vous ne veillez pas et que si vous ne priez pas, vous ne pourrez pas être debout quand Jésus reviendra. C'est écrit ou c'est pas écrit? La prière, c'est ce qui fait mouvoir le bras de Dieu, c'est ce qui fait que les églises n'entreront pas dans l'apostasie. Vous savez, par la grâce de Dieu. Ouais, par la grâce de Dieu. Je suis amené, voyez, à faire des séminaires dans d'autres mouvements. Cette semaine, j'avais un séminaire avec des pasteurs vraiment qui cherchent Dieu, mais qui ont besoin d'être enseignés. Et je me rends compte qu'il faut absolument veiller sur la parole. Si on garde la parole, le Seigneur nous gardera. Dans une église, ne vous imaginez pas, est-ce qu'il faut moderniser? On est dans des débats misérables. Dans l'église, voilà, Dieu il veut qu'on garde sa parole. Et celui qui garde la parole, Dieu le gardera. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Moi je suis conscient de ma responsabilité. Que tous, nous devons réfléchir à ce qui peut faire obstacle à la prière. Car franchement, vous aimeriez vous présenter devant Dieu un jour, ce qui nous arrivera à chacun, même si vous n'êtes pas converti, ça vous attend. Hein, à vous présenter devant Dieu et que le Seigneur vous dise, tu sais Gérard, t'as prié pour rien. Vous aimeriez entendre ça? Apprendre le jour où vous allez comparaître devant Dieu que vous avez prié pour rien? Personne n'a envie de ça. Et pourtant, c'est le cas. Vous devez savoir dans demi-heure si vous priez ou non pour rien. Si vous ne le savez pas dans demi-heure, c'est que votre esprit est encore plus endurci et que chez vous, vous devrez redoubler de vigilance et recommencer à lire le Nouveau Testament. Écoutez bien ce que je vous dis. Recommencer à lire le Nouveau Testament avec cœur et non pas lire pour lire parce qu'il faut lire, ça c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais recommencer, vraiment, écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui découvrent l'Évangile ou ceux qui ne sont pas là depuis longtemps, j'ai souvent dit que je rendrai compte à Dieu pour chaque prédication. Je le sais, Dieu m'a assez repris avec ça. Si vous n'avez pas compris certaines choses ce matin, vous devez... Chez vous, peut-être éteindre Facebook, les radios, les tablettes et les machins, faites-le. Si vous n'entendez plus cette voix de Dieu vous parler lorsque vous lisez la Bible, si vous avez peur du lendemain parce que qu'est-ce qui va arriver, et si ça touche mon quartier, moi je vais vous dire que 1000, si vous êtes avec Dieu, si vous êtes avec le Seigneur, que 1000 tombent à votre droite et 10 000 à votre gauche, vous ne serez pas atteint. Si vous marchez avec Dieu, c'est écrit, le malin ne vous touchera pas. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous voulez la référence? C'est écrit. Alors, nous devons écouter avec sérieux. Vous rendez compte, il y a des églises, pendant les cultes, il y a des jeunes qui ne jouent pas ici. J'en vois un, franchement. Qui jouent avec leur portable. Il y a des jeunes qui s'envoient des textos. Un pasteur disait à une dernière pastorale, moi, pendant le culte, c'est comme ça, c'est l'évolution. Ah oui, l'évolution, enfin l'évolution, je sais pas, moi je la traduirais autrement, vous voyez. Les jeunes, pendant le culte, ils s'envoient des textos. Mais franchement, mes frères et sœurs, moi je crois que dans ces églises-là, et je le dis avec beaucoup de sérieux, le Saint-Esprit s'est retiré depuis longtemps. Depuis longtemps. Il en faut moins que ça. Dans l'église de Laodicée, vous savez tout ce que je vous dis, parce que des fois on me dit, mais monsieur Gouk, vous avez dit ça, j'ai pas compris. Écoutez, dans l'église de Laodicée, le Seigneur il est dehors à cause de deux choses, la tiédeur et l'illusion. C'est écrit ou c'est pas écrit? Tu crois que tu es riche et tu sais pas que tu es pauvre. La tiédeur et l'illusion, ça suffit à ce que Jésus soit dehors. Bon, c'est encore l'église, voilà, c'est là que je veux en venir. L'église de Laodicée, c'est encore l'église ou c'est pas l'église? Bien sûr que c'est l'église. Plus que le Seigneur peut encore lui parler. Mais quand le Seigneur est à la porte, dehors, vous ne trouvez pas, vous croyez pas que c'est quand même un sérieux danger? Cette semaine, on m'a posé plusieurs questions des pasteurs par rapport au salut. Quand on est charnel, on perd le salut? Non, mais à force de devenir charnel, on va le perdre. La prière, pour obtenir. La prière, c'est pour obtenir, c'est pas pour prier. Oh, je prie, vous savez, monsieur Gros, je prie. Pourquoi vous priez? Ben, je prie. Non, on ne prie pas pour prier. On prie pour obtenir. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Il n'est pas dit pour prier, afin d'obtenir grâce, miséricorde et secours. Si vous priez pour prier, vous êtes que des religieux. Que des religieux. Comme certaines dénominations récitent des prières, vous êtes devenus pareil. Alors il y a de l'aveuglement, il y a de l'illusion, il y a de la tiédeur. Qu'est-ce que c'est qui peut faire obstacle à ma prière? Est-ce que ça vous préoccupe, ça? Si vous saviez que vos prières ne sont pas exaucées parce qu'il y a un problème dans votre vie, vous ne voudriez pas le savoir? Bien sûr que si, tout le monde. Le problème, c'est que ça peut aller archi loin, cette affaire. Quand Jésus dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas de ténèbres. Quand on commence, par exemple, en plus, l'aveuglement, c'est compliqué parce qu'on peut avoir un discernement formidable pour voir ce qui ne va pas chez l'autre. C'est écrit, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans le Sermon sur la montagne qu'on est capable de voir la paille qui est dans l'œil de son frère et de ne pas voir sa propre poutre dans son propre œil. C'est une image terrible, terrible. C'est-à-dire que je peux constater que tel frère est avare. Mais moi, je peux l'être encore plus que lui. Je peux constater que tel frère juge les autres. C'est terrible de juger. Et moi, être encore plus dans le jugement, etc., etc. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, donne plein d'exhortations et il termine ses exhortations en disant qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes frères et sœurs, vous savez, je suis conscient de ma responsabilité. J'ai vu un pasteur cette semaine, pas de chez nous, hein. Je vous le dis, c'est pour que vous compreniez mes propos. J'ai vu un pasteur qui m'a dit, monsieur Gaud, j'avais abandonné le ministère. Et j'ai écouté une prédication sur Internet. Et quand je vous ai entendu prêcher, le Saint-Esprit m'a demandé de reprendre le ministère. Je sais l'impact que peut avoir un message. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Le premier don spirituel, où il n'y a rien à redire, le premier don spirituel stipulait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Vous écoutez les dons ? Que l'on peut perdre la conscience. Pourquoi un chrétien perd la conscience ? Eh bien parce que quand on perd la foi, on perd la conscience. Et vice-versa, c'est mélangé cette affaire. Et quand on perd la conscience, on finit par perdre la foi. C'est écrit, tout ce que je vous dis c'est écrit. Lorsque Paul parle de son ministère aux chrétiens de Rome, il leur dit « J'ai été amené au ministère, à l'apostolat, pour amener les païens à l'obéissance de la foi. » Il leur dit ça. Les païens. Alors, à plus forte raison, nous les pasteurs, nous sommes appelés à amener les chrétiens à l'obéissance de la foi. Car la foi sans obéissance est une religion ou une morale de plus. Les obstacles à la prière, il y en a plein. Les gens qui murmurent. Vous avez vu dans le désert, qu'est-ce que ça a fait le murmure ? Oh, mais c'est pas grave, monsieur Go. Il murmurait contre Moïse. Il murmurait pas contre Moïse. Il murmurait, en fait, contre Dieu. On pourrait faire une étude de 10 heures, franchement, sans exagérer, sur le murmure. Dans l'avant-dernier livre de la Bible, on pourrait peut-être y aller. Je vais voir tous les obstacles qu'on pourra voir. Mais ça ne me gêne pas qu'on n'en voit pas beaucoup. Ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je vais recommencer l'évangile de Matthieu jusqu'à l'épître de Jude, même l'Apocalypse, les premières lettres. Jusqu'au chapitre 4, en tous les cas. Et au 3 au moins. Et tu me montreras tout ce qui fait obstacle à mes prières. Regardez dans l'épître de Jude. C'est la dernière lettre avant la révélation. Et l'apôtre Jude, des frères du Seigneur, parle des gens qui sont dans le murmure. Regardez Jude, verset 12. En plus, ce sont des chrétiens. Regardez comment le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur. Regardez comment il les définit, ces chrétiens-là? Ce sont des écueils. Vous savez ce que c'est un écueil sous l'eau, là, qu'on ne voit pas? Combien de bateaux se sont échoués parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait... ils auraient dû s'en douter. Mais ces rochers tranchants, ils ont détruit leur navire. Ce sont des écueils dans vos agapes. Faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes, dénués, sans eau. Vous savez, bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais l'été, imaginez, il n'a pas plu depuis 2 mois, on voit plein de nuages arriver, paf, il n'y a pas d'eau quand même. C'est triste. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a apparemment de l'eau, il n'y a rien du tout. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Poussé par les vents, des arbres d'automne sans fruits, comment ils sont ? Deux fois mort. Qu'est-ce que ça veut dire, deux fois mort? Eh bien, ça veut dire que j'étais sauvé, que j'ai été à la croix, que j'ai accepté Jésus-Christ et que j'ai rétrogradé et que je suis mort une deuxième fois. C'est ça que ça veut dire. Parce que, écoutez, moi, je n'ai pas fait d'études. C'est vrai. Mais je sais ce que ça veut dire. Un chrétien deux fois mort, c'est un chrétien qui a perdu le salut. Si vous doutez de ces choses, moi, je vous plains vraiment. Deux fois mort. Déraciné. Verset 16, on ne va pas tout lire, vous pouvez le lire, hein, c'est très 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 édifiant, c'est clair. Verset 16, ce sont des gens qui murmurent. Tout le temps en train de râler. Tout le temps en train de râler. Ils se plaignent de leur sort. Ils marchent selon leur convoitise. Verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, je peux vous dire qu'on y est, au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont des hommes qui provoquent des divisions, hommes sensuels. Et regardez comment le verset se termine. Qu'est-ce qu'ils ont ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont plus l'esprit. Moi, je vous le dis avec beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Si vous êtes tout le temps, ça peut arriver des fois, une petite contrariété, hein, mais de suite, je crois qu'on se corrige. Oui ou non? Je t'ai mal parlé, je te demande pardon. Mais des gens tout le temps en train de râler. Tout le temps. Est-ce que vous vous reconnaissez? Tout le temps en train de râler, et j'en ai marre, et ceci, et l'église, et lui, et un tel, et quand il n'y a personne, c'est le chat. Il y a des chats qui ont pris des coups de pied pour rien. Je le dis pour rire, mais bien sûr, je pense que ce n'est pas interdit un peu d'humour dans un sermon, même s'il est sérieux. Mais mes frères et sœurs, si vous murmurez, si vous râlez tout le temps, si vous ne vous soumettez pas, c'est que vous n'avez pas l'esprit. Écoutez-moi, je vous le dis de la part de Dieu. Si je ne le fais pas, Dieu me rendra compte. Dieu me demandera des comptes. Quand on est spirituel, on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les anciens qui sont là, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est la vérité. Ça fait plus de 20 ans que je suis là, demandez aux anciens, monsieur de Dieu, si j'ai manqué de soumission vis-à-vis du conseil en 20 ans. Jamais. Oui ou non? Pourquoi? Ben parce que quand on ne se soumet pas et quand on murmure, on a perdu l'esprit. Oui, mais je parle la langue. Écoutez, moi je vous dis que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même s'il n'est pas en haut de l'escalier, je crois qu'il a quand même reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et si vous êtes tout le temps en train de râler, de bisquer et de vous plaire, je ne comprends pas, vous vous rendez compte, je prie. Mais écoutez-moi mes frères et sœurs, ce que vous voyez à la télé, ça va s'aggraver. Ça va toucher d'autres nations. Et il faut que ces choses arrivent. Mais écoutez, vous avez lu les prophéties. Je ne suis pas prophète, moi, je suis pasteur. Et je vous dis que ces choses s'aggraveront. Et que ce n'est rien à côté de ce qui arrivera une fois que Dieu aura levé l'Église pour protéger l'Église de la colère qui va venir sur la terre. Parce que là, je peux vous dire que c'est les prémices de la colère. Et ce n'est rien. Mais si quelqu'un disait, Monsieur Gros, il est excessif, mais lisez l'Apocalypse. Et vous allez voir si j'exagère. Vous croyez que Dieu bénit l'exagération? Dieu ne bénit jamais l'exagération. C'est du pseudo-mensonge, l'exagération. Ça m'est arrivé, Dieu m'a repris là-dessus. Alors je vous avoue que je n'ai pas envie de continuer. Le murmure, si vous murmurez, si vous râlez, mais soyez honnête, demandez à quelqu'un si vous êtes honnête. Parce que si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu trouves que je râle toujours? Et si vous dites oui, oh mais tu comprends rien de toute façon, toi tu râles autant que moi. Si vous dites ça, ne le demandez pas, c'est pas la peine. Ne riez pas. Qui est capable au milieu de nous? Qui est capable de dire à son conjoint, à ses enfants, à ses gendres, oui, sa belle-mère, hein? Est-ce que tu trouves que je râle ou pas? Parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, ce serait bien que quelqu'un vous le dise. Dans le désert, à cause du murmure, ça semble complètement paradoxal. Moi, au début, je ne comprenais pas ces choses. À cause de murmure, parce que murmure, vous n'allez pas me dire, c'est pas de l'adultère, c'est pas un meurtre. Tu te dis, c'est disproportionné la colère de Dieu. La colère de Dieu s'enflamme. Lorsqu'il murmure, tu te dis, attends, mais c'est pas quand même. Et puis tu comprends, parce que quand on murmure, l'œuvre de Dieu se fait pas. Ça bloque l'œuvre de Dieu. Vous qui demandez, Seigneur, agis par ton esprit dans l'église, agis. Si vous vous plaignez, si vous murmurez, vous empêchez le Saint-Esprit d'agir. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, je suis désolé. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de tous les chrétiens. La préparation du chemin, puisque dit préparer le chemin, la préparation, ça concerne tous les chrétiens. Si vous avez pris le baptême, voyez, la semaine dernière, Thomas, Timothée, Ruth, vous avez pris le baptême, vous êtes impliqué. Si vous ne vous impliquez pas dans la préparation du chemin, c'est qu'on vous a mal expliqué ce que c'est être un disciple. C'est notre faute, c'est la vôtre. En tous les cas, c'est notre faute, à tous. La préparation du chemin pour que Jésus marche au milieu de nous, c'est l'affaire de tous les chrétiens. C'est pour ça qu'il faut prier. Pourquoi je vous demande de prier? Pourquoi je vous demande d'avoir une vie de prière, d'aimer les réunions de prière, d'aimer les réunions où on étudie, comme là? Si vous n'aimez pas ces réunions, ça, c'est grave. Hein, les murmures, le jugement. Dans une église, on doit juger le péché. Vous êtes d'accord? Si on sait que quelqu'un est dans le péché, nous devons en parler avec les frères. On le fait discrètement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, voilà, on voit bien que Dieu nous demande. Et c'est le premier texte, en fait le deuxième, où Jésus parle de l'église. La première fois, je le dis parce que c'est archi important. La première fois, c'est quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et là, Jésus, pour la première fois, explique que c'est sur cette base-là qu'il est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, le Dieu incarné, qu'il bâtira son Église. « Je bâtirai mon Église ». Et la deuxième fois où il parle de l'Église, c'est quand il dit « Voilà, si ton frère a péché, etc. » On n'est pas là pour parler de la discipline, mais la discipline doit exister quand le péché est avéré. On doit, dans l'église, pas dehors, dans l'église, on doit juger le péché. Par contre, on ne doit pas juger les frères, et surtout le comportement. On a critiqué l'église catholique parce que quand on était catholique, on était là, on regardait comment les gens étaient sapés, encore, elle a un nouveau manteau, t'as vu? Eh bien, moi je dis merci Seigneur. Si vous avez pu acheter deux ou trois manteaux, ben c'est bien, oui ou non? Moi, je préfère que vous ayez trois manteaux que nous, on doit vous en acheter un. Parce que vous n'en avez pas, franchement. Moi, je suis intéressé là-dedans. Vous allez me dire, mais monsieur Gros, on n'en est pas là, nous, les pentecôtistes. Ah ouais? Combien de chrétiens jugent le comportement ou s'ingèrent dans les affaires? Il s'est écrit que personne ne souffre. Quand il est parlé de souffrance ou de malheur, c'est clair que c'est révélateur. À s'ingérer dans les affaires d'autrui. De se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Combien de chrétiens sont dans cet état d'esprit? Alors si vous me dites qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, expliquez-moi-le. La Bible dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Parce que Dieu dans le ciel nous jugera avec la mesure qu'on aura utilisée. Si vous avez utilisé un dé à coudre, Dieu utilisera un dé à coudre. Si vous avez utilisé une barrique de 500 litres, Dieu utilisera la barrique de 500 litres. C'est une des raisons pour laquelle Dieu ne parle pas. Lisez le psaume 50, écoutez, marquez-le, notez-le, méditez le psaume 50. La Bible dit, tu parles contre ton frère et Dieu se tait. Si vous avez tendance à critiquer, vous avez un truc à dire, dites-le à quelqu'un, si c'est intelligent bien sûr. Mais ne critiquez pas, ne jugez pas. Combien de gens on a perdu dans les églises parce qu'on les a jugés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Que Dieu nous pardonne vraiment. Pour terminer, mes frères et sœurs, je l'ai eu à cœur, donc c'est que c'est quelqu'un qui en a besoin vraiment. Intellectuellement, je ne l'aurais pas fait, parce que je l'ai fait plusieurs fois, c'est mon passé. Écoutez bien, frères et sœurs, je suis conscient que je dois m'appliquer. La Bible dit, je ne cesse de rappeler les mêmes choses, car pour vous, cela est... salutaire, c'est-à-dire que le salut d'un chrétien est lié au fait qu'ils doivent réentendre certaines choses. Ça ne nous plaît pas toujours, parce qu'on a, voyez, cet orgueil. Et encore, tu vas redire les mêmes choses? Eh bien oui. Parce que c'est salutaire. Les gens qui critiquent le président, mais peut-être que je botte en touche. Le diable, c'est le spécialiste. Il est appelé le rusé. Nous, on croit qu'on connaît toutes les ruses du diable, bien sûr, parce qu'on croit qu'on sait tout. Je peux vous dire que le diable est beaucoup plus rusé, mes frères et sœurs, que ce que nous pensons. Alors on peut dénoncer certaines choses, il faut les dénoncer. On va prendre un texte, il y en a des textes. Mais un texte où même l'apôtre Paul, je vais prendre ce texte pour être miséricordieux. Dans le livre des Actes, alors c'est au chapitre, ouais, c'est par là, au chapitre 23 je crois, non ? Ouais, acte 23. Paul, écoutez bien, c'est un homme irréprochable, irréprochable. Il le dit devant Dieu, il fera des comptes, et devant vous, je suis irréprochable. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait était pur. Et on peut aspirer à ça. Donc Paul, comparé devant le Sanhédrin, il pense qu'il a affaire qu'à des sacrificateurs comme lui, parce qu'avant il l'était. Regardez, regardez bien. Dieu a voulu ça, pour que ça soit dans le Saint-Livre. Acte 23, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est tout en bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Il commence, il exprime sa bonne conscience. Et il a une bonne conscience, c'est clair. Quand on voit d'où il sort, d'où il part, ce blasphémateur et ce persécuteur. Le souverain sacrificateur, Anania, mais c'est pas que c'est le souverain sacrificateur. Écoutez bien, regardez bien. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Bon, alors là, il a agi charnellement. C'est humain, mais bon, c'est surtout charnel. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. » Voyez, expression utilisée à l'époque pour s'exprimer. « Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » On va lire dans Romains, mais c'est important, dans Romains. Mes frères et sœurs, c'est archi grave. Ce problème, c'est comme les chrétiens sont influencés par le monde, c'est là qu'on le voit. Eh bien, l'ennemi en profite. Parce que si l'anarchie, elle est dans le monde, elle va s'aggraver. Mais je vous dis, ça va s'aggraver, cette affaire. Hein. Ne vous imaginez pas que ça va s'arranger. Et il faut que ça s'aggrave. Vous le comprenez, mes frères et sœurs? Comment l'Europe peut-elle voir germer un dictateur mondial qui sera l'antéchrist? Justement, ça s'approche. Il va sortir de l'Europe, de l'ancien empire romain, un président qui va avoir la poigne, je vous le dis. Croyez-moi. Parce que ça va tellement déborder, ils seront obligés. Ils seront obligés. Obligés. Et même de rétablir la peine de mort. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est d'être exaucés. Romains, qu'on ne comprenne pas tout ça, si vous ne comprenez pas qui sera l'antéchrist, ce n'est pas grave. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qui ça sera, parce qu'on peut douter qu'on le peut. Il sera là, mais l'Église, normalement, ne saura pas qui c'est. Romains 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Est-ce que vous êtes soumis à la personne qui est au-dessus de vous? À votre patron? Ou est-ce que vous dites, ah ben, dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le monde là? On ne se soumet plus au patron, c'est fini! C'est de l'anarchie et c'est stupide. Vous devez savoir qui c'est qui est au-dessus de vous. Partout où vous êtes. Si vous voulez gagner du temps, posez-vous la question, qui c'est, quelle est la personne qui est au-dessus de moi, à laquelle je dois me soumettre? C'est pas évident, hein? Je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi j'ai des autorités au-dessus de moi spirituelles. Et je peux vous dire, comme d'ailleurs vous allez prier pour moi tout à l'heure, parce que j'ai besoin de sagesse pour savoir respecter ça, tout en étant intègre dans la vérité. C'est un super exercice. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, soyons honnêtes, il faut être archi honnête. Nous avons une situation en France, moi je ne fais jamais de la politique, mais ce n'est pas de la politique, c'est pour vous expliquer l'état d'esprit. Nous avons une situation terrible en France qui va donner l'exemple, alors exemple entre guillemets bien entendu, aux autres pays. Mes frères, nous devons comprendre. Il faut savoir dénoncer ce qui est injuste. Et c'est inévitable, ça. Il y a même des prophéties qui en parlent. qu'à la fin des temps, les riches vont détruire la planète. C'est écrit ou c'est pas écrit? Dans Jacques, exactement. C'est écrit. Malheur à vous, riches. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, vous avez étouffé le juste. C'est écrit. Mais comment les chrétiens peuvent en perdre la paix, en perdre la boule, en perdre la grâce? Parce que le problème, c'est que quand on résiste aux autorités, on s'oppose à Dieu. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Avant toute chose. Je ne sais pas pourquoi vous priez en premier le matin. Moi, le matin, souvent, j'aime prier pour mes enfants, mon épouse, mes petits-enfants. En premier, c'est bizarre, comme ça vient ça. Mais je m'efforce, avant toute chose, parce que c'est écrit, à prier pour ceux qui nous gouvernent. Est-ce que c'est écrit? Pourquoi c'était demandé? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Allez, dites-moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Pour nous, il nous est demandé de prier pour ceux qui nous gouvernent. Comment? Voilà. Afin que nous menions une vie paisible. Voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas la paix. Et monsieur Macron, et en plus, avait des noms d'oiseaux. Moi, ça me fait pas rire. Parce que je peux vous dire que si vous êtes là-dedans, vous pouvez arrêter de prier. À part pour demander pardon. Mais vous pouvez arrêter. Moi, je vous le dis. Arrêtez de prier. Moi, je suis d'accord avec plein de revendications. On est obligé d'en arriver là. Mais pour qu'il y ait un dictateur mondial, il faut absolument que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Et Madame Blanc citait un texte. Moi, j'ai cité le texte de Timothée. Madame Blanc, c'est elle qui prépare mes sermons, c'est pour ça qu'elle savait. Madame Blanc citait Jérémie 29. Lisez avec moi. Merci pour votre aide, Madame Blanc. Dans Jérémie au chapitre 29, regardez, c'est un très très bon exemple. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous soyez conscients de l'importance de dénoncer les ruses du diable. Regardez, Jérémie 29, je ne sais pas si vous méditez, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça soit votre plus grande responsabilité. Le peuple d'Israël a péché, ils sont en captivité à Babylone. Ça va durer un moment, il y a des prophètes de malheur, des prophètes de mensonges, et on est là-dedans. Jérémie 29, regardez, ils sont en captivité, ils sont à Babylone, à 1400 km de Jérusalem, ils sont malheureux, c'est évident, ils savent que c'est à cause du péché, et Dieu va parler, bien sûr, par le prophète. Regardez, recherchez le bien de la ville, 7, pardon, Jérémie 29, 7, recherchez, c'est ça, c'est le concret de la situation. Recherchez le bien de la ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont venus à Jérusalem, ils ont tout massacré, ils ont tout brûlé, ils ont tout détruit. Ils ont tué des gens. Et Dieu leur dit, non, priez pour Babylone. Recherchez le bien de cette ville où vous êtes captifs. Priez à l'Éternel en sa faveur. En sa faveur? Sa faveur. Ah, la suite, elle est bien. Parce que votre bonheur dépend du... Cette ville, si vous avez lu les prophéties, elle va être détruite. Vous me donnez 5 minutes de plus. Cette ville, elle va être détruite. Si vous connaissez les prophéties d'Ésaïe, vous le savez, et de Jérémie. Elle va être détruite. Dieu le sait. Notre pays aussi, notre monde entier va être détruit par le feu après le millénium, dont il y en a encore pour plus de 1000 ans. Donc, vous inquiétez pas, vous devriez avoir des cheveux blancs. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous demande de prier, et en plus, il leur dit que ça va durer 70 ans. Mais priez pour la ville, parce que votre bonheur dépend de ça. À moi, prier pour M. Macron, non mais tu plaisantes. Mais moi, ça me fait pas rire, hein, je vous le dis. Hein. C'est archi grave. Mais mes frères et sœurs, je vous le dis de tout mon cœur, si vous vous comportez de la sorte, vos prières seront obstruées. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Je ne suis pas d'accord, vous êtes de droite ou de gauche, mais on s'en fiche. Quoi que vous seriez de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ça m'inquiéterait un peu. Mais que vous soyez du... Ça m'est égal, ce n'est pas important, on a le droit d'avoir des idées quand même, oui ou non? Est-ce qu'un chrétien peut être, par exemple, pour la peine de mort et l'autre contre? Est-ce qu'on peut avoir des opinions différentes? Mais bien sûr. Ne jouons pas les supraspirituels. Mais il y a des textes qui nous montrent que nous devons prier pour notre nation. Nous devons prier pour notre nation. Nous devons aimer notre nation. Dieu nous a mis en France. Peut-être que vous êtes africain, je ne sais rien. Mais ce n'est pas grave ça. Si Dieu vous a mis ici, priez le Seigneur pour cette nation. Priez pour la vôtre, on prie pour les nations qu'on connaît, c'est évident. Mais mes frères, celui qui s'oppose à l'autorité, il s'oppose à Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Et ils s'attireront un jugement. Il y a une centaine de textes, une centaine d'obstacles. Moi, je crois, mes frères et sœurs, bien sûr, on ne va pas pouvoir les voir tous, parce que là, on n'est pas sortis, je vous le dis. On a chanté tout à l'heure des beaux cantiques. Est-ce que vraiment vous étiez d'accord avec les cantiques que vous avez chantés? Vous étiez d'accord? Consentir à n'être rien. Vous savez, ça aussi, la croix, le diable, il nous a bluffé avec cette affaire. Parce que je peux vous dire que si Jésus dit, mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, je peux vous dire que si on ne fait pas ça, de toute façon, on le suivra charnellement. C'est pour ça tous ces débordements. Dans l'Église, je ne parle pas du peuple. Parce que quand on suit Dieu, si on veut marcher spirituellement, il faut porter sa croix chaque jour. Ce n'est pas nous qui devons commander, c'est Dieu. Alors franchement, si vous êtes d'accord avec cette prédication, eh bien, vous prendriez la Bible, peut-être le livre des Proverbes, commencez par Matthieu, et Seigneur, je vais m'arrêter, je vais prendre mon crayon à papier, et je vais noter tout ce qui fait obstacle à la prière. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que tu attends le prochain sermon dimanche prochain? Moi, je vais te dire, je te le dis devant Dieu. Si ta présence ici, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent venir que le dimanche. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si votre travail, votre service, votre talent est enterré, moi je vous plains. Je vous plains vraiment parce que vous ne serez pas prêts. Vous ne serez pas prêts. Moi, je vous avertis. Nous devons tous. Moi, je sais ce que Dieu me demande. C'est pour ça que je vais demander aux anciens de prier pour moi. Mais si votre présence, bon, on l'attend dimanche prochain, c'est intéressant. Il avait l'air ému, monsieur Gault. Frère et soeur. Il faut qu'on rentre. Tiens, est-ce que c'est ma place mardi à la prière? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas envie d'aller en enfer. Il y a des chrétiens qui vont... Il y a beaucoup de chrétiens, en tous les cas, avant d'aller en enfer, ils devront passer par la grande tribulation parce qu'ils ne seront pas prêts. C'est ça que vous avez envie? À cause de votre négligence, à cause de votre paresse, à cause de votre... Oui, négligence. Parce que franchement, je crois que c'est quand même une grâce d'avoir la Bible en français. Il y a des gens en Afrique qui ne peuvent pas lire la Bible, ils n'ont pas dans leur langue. Vous vous rendez compte de la grâce qu'on a pour pouvoir lire la Bible dans notre langue.